Question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio Galilée. Aujourd'hui, je vais du côté d'une œuvre qui est, ma foi, riche, intense, fort intéressante et qui démonte, j'oserais dire, les mécanismes des illusions dangereuses. Et c'est le titre, d'ailleurs, de l'œuvre « Les illusions dangereuses ». C'est une préface de Rémi Brague. Notre invité est Jean-Philippe Trottier, diplômé de la Sorbonne en philosophie, ainsi que de l'Université McGill et du Conservatoire de Montréal en musique, donc musicien, journaliste et traducteur, également chef d'antenne à Radio-VM et animateur à Radio-VM également. Et il est essayiste, il a publié précédemment « La profondeur divine de l'existence » aux éditions Mediapol. Jean-Philippe Trottier, bonjour.
Bonjour Mario Barre.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'accueillir.
Et merci beaucoup pour cette œuvre qui démontre des mécanismes qui sont en cours présentement dans notre monde, dont on s'en aperçoit pas et qui touchent toutes les couches de la société, ou toutes, en tout cas, tout ce qui est social ou tout ce qui est notre société en général, ou surtout en Occident, en fait.
Ah, surtout en Occident, en effet, oui.
Jean-Philippe, d'abord, quelle a été l'idée de ce livre, Les illusions dangereuses?
J'avais écrit déjà un texte là-dessus, et un éditeur français, donc Artege, qui m'a publié, m'a écrit un petit mot sur Facebook. Écoutez, on lit vos textes, on aimerait bien vous proposer un contrat. Moi, je pensais que c'était un hameçonnage, un truc comme ça. Je dis, qui êtes-vous? Il me dit, nous sommes Artege, etc. Donc, finalement, on a correspondu, puis après on s'est vu à Paris une fois, etc. Donc ils m'ont donné un contrat où il était question que j'explicite la mécanique de l'idolâtrie victimaire. C'était ça le titre que j'aurais voulu avoir, ouais. Mais ils ont préféré les illusions dangereuses. Et
ce qui est peut-être plus juste, en tout cas avec moi, mon recul de lecture.
Oui, c'est possible. Ouais, mécanique, c'est un peu trop technique, trop froid.
Peut-être, oui.
Et donc, voilà. Ben, je pensais tout le temps à un film de Otto Preminger des années 50, Anatomie ou autopsie d'un meurtre. Je pensais à ça, mécanique, pour voir un peu toute l'horlogerie qu'il y a derrière tous les discours victimaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes, mais il y a les discours victimaires, c'est un peu différent.
Ben, quelle est la différence, justement? Parce que c'est surtout là-dessus que vous nous menez, vous nous faites comprendre des choses.
Absolument.
Que finalement, on devient une société où... En fait, j'allais vous poser la question, quel rôle joue la modernité dans la poussée des illusions dangereuses?
La modernité, telle que je la définis moi, vient de la Renaissance, si vous voulez, là, au moins 5 siècles. Et l'homme, au lieu de devenir dépositaire des sollicitudes divines, s'est mis à nommer le réel lui-même, grâce à la science, grâce à l'objectivité, etc. Donc c'était très bien. Donc il est allé de conquête en conquête, qu'elle soit technique, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, bref. Et ce faisant, il a perdu... l'esprit de la tradition, l'esprit de la réception que l'on voit beaucoup chez les Autochtones. Ils ont gardé cet esprit-là.
Oui. Chez l'esprit de la réception, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est que l'homme est un récepteur de Dieu. Comme dit, je crois que c'est dans Saint Jean, Dieu a d'abord aimé l'homme, ensuite l'homme le lui a rendu, si vous voulez.
D'accord.
Donc je ne peux pas créer un Dieu, je ne peux pas secréter Dieu, je suis créature divine.
Et okay?
De Dieu.
Vous recevez Dieu.
Donc je reçois de Dieu, etc. Et mon rôle est d'être un intendant de cette création. On est exactement dans la pensée autochtone. Or, l'homme s'est affranchi de tout cela, peu à peu, hein, ça se fait pas en criant ciseaux. Et puis, il s'est affranchi, et puis il est devenu le maître de l'univers, et ça culmine avec la colonisation, avec des massacres, non pas qu'il n'y en a pas eu auparavant, mais l'échelle s'est démultipliée, si vous voulez, et un gars comme Rudyard Kipling, un prix Nobel de littérature britannique en 1907, je pense,
oui.
Écrit à la fin du 19e siècle, en 1899, Le fardeau de l'homme blanc. L'homme blanc a comme fardeau de civiliser les masses gourdes, ceux qui sont coincés dans l'ennui d'Égypte, qui sont ingrats, qui sont médiocres, qui traînent dans la boue et dans la fange. Et l'homme blanc victorien, s'entend, et hétérosexuel forcément, va leur apporter la lumière et il va récolter en échange l'ingratitude. Alors, aujourd'hui, on est également dans le fardeau de l'homme blanc, mais ce n'est pas un fardeau moral, c'est un fardeau d'ineptie. Donc, au lieu d'aller apporter la civilisation avec un grand C à tous les non-blancs, il reçoit de tous les non-blancs et de beaucoup de blancs également le masque d'opprobre. C'est-à-dire que le grand s'est retourné. Il est métaphysiquement incapable, il est inepte moralement, il est l'auteur de tellement de massacres, de tout ce que vous voudrez. Le conseil est assez vrai. Il n'est pas uniquement comme ça, mais le conseil est quand même jusqu'à un certain point fondé.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas, en fait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, avec toute cette colonisation, ces idées de colonisation, le Canada n'y a pas échappé avec les on pense entre autres aux pensionnats.
Absolument.
Au système de pensionnats, on pense à la RDC, on pense au Congo. En ce sens-là, Jean-Philippe, l'homme blanc n'a pas apporté quelque chose. Ou en tout cas, il l'a apporté,
Il faut faire le tri là-dedans. Je veux dire, je ne suis pas un anti-colonisateur,
non?
Forcé, oui, mais à un moment donné, on pense que ce sont des hommes blancs dans une officine qui ont dit « aujourd'hui, on va forcer ça ». Les choses se font graduellement.
De manière plus organique, peut-être?
Plus organique et sous couvert d'une illusion de civilisation. Mais,
vous le dites, là, sous couvert d'illusion de
civilisation. C'est une illusion, mais tout n'est pas faux. Je veux dire, les dispensaires, les hôpitaux, le système d'égout, les trains, etc. Il y a des pays qui en ont profité aussi. Donc tout n'est pas noir dans la colonisation, mais tout n'est pas complètement blanc, loin de là aussi. Donc il s'agit de trouver un, il s'agit pas de comment dirais-je, d'être neutre ou entre deux extrêmes, mais il s'agit quand même de faire le tri là-dedans. On n'y est pas encore parce qu'on est dans les mouvements anticolonialistes. On n'entend pas encore ce genre de discours-là. Moi, je me souviens d'un théologien qui disait qu'un pays colonisé, c'est un pays colonisable. Alors là, il s'est fait absolument jeter les tomates. Comme quelqu'un qui méprisait, c'est quelqu'un qui est méprisable.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire, on essaie de... j'essaie, moi, si vous voulez, de réintégrer la victime de l'histoire dans une histoire, justement, et non pas de l'éjecter dans une sphère de pureté. Alors, je dis quelque part dans mon bouquin que la victime, et c'est choquant à dire, et ça me vaudra des roches, mais est-ce que la victime... Parce qu'elle a été victime, il y a des vraies victimes aussi, est-elle exempte du péché originel? Est-elle pure? Moi, je dis que non. Il n'y a que, en christianisme, il n'y a que Jésus-Christ qui soit pur, avec la Vierge Marie aussi. La tentation est de voir que les victimes outragées, violées, tout ça, de l'histoire, sont des anges. Je dis que non. Je veux dire, si elles avaient été... De l'autre côté du bâton, si elles avaient tenu de l'autre côté du bâton, elles auraient peut-être fait la même chose.
En fait, ce qui vous agace dans notre société d'aujourd'hui, si je puis me permettre, Jean-Philippe, c'est qu'on monte en épingle, on peut monter en épingle, on les monte pas toujours, bien sûr, mais on finit par idolâtrer, on finit par faire de la victime une idole.
Absolument.
Jusqu'à un certain point, et ça peut servir tout le monde. C'est ça que vous démontrez dans le livre.
Ça sert tout le monde.
Ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut servir... C'est sûr que les victimes sont victimes.
Oui,
c'est
absolument.
Pas ça que vous remettez en question.
Pas du tout. Il y en aura toujours.
Bon,
c'est
d'accord.
Malheureux, mais c'est vrai.
Bon. Mais le fait est que vous dites, attention, elles sont aussi utilisées, non pas par elles-mêmes, mais souvent par des systèmes économiques ou des systèmes philosophiques ou des systèmes religieux.
Toute cause sécrète son clergé. Alors, un clergé va se mettre à la défense de la veuve et de l'orphelin, de l'environnement, des autochtones, des noirs, des homosexuels, de tout ce que vous voudrez, sauf de l'homme blanc hétéro, du moins pour l'instant. C'est en train de changer d'ailleurs dans certains cercles extrémistes. Mais ça, c'est
autre chose,
histoire,
ça. Okay? Oui, et puis je vais pas l'aborder avec vous.
Vous avez un clergé qui est là pour défendre une cause et qui s'institue élite de cette cause-là, très bien. Une vraie victime, elle ne peut pas se défendre, elle est tellement occupée à lécher ses plaies qu'elle ne peut pas aller ensuite manifester ou faire un discours. Elle va susciter, si vous voulez, tout cela va susciter un clergé qui, mû de compassion et de scandale, va la défendre. Très bien. Avec les années, ce clergé... peu à peu s'autonomise et se crée une idéologie qui part d'un constat réel et qui peu à peu commence à voler de ses propres ailes et de plus en plus en apesanteur. Et la vraie victime, on sait plus trop où elle est. Elle s'en trouve dans le discours uniquement. Et c'est là où on idolâtre la victime.
Et c'est là où l'on est présentement, au niveau de l'Occident du moins?
À mon avis, oui.
D'accord.
Encore une fois, je le répète, parce que on me pointe souvent du doigt au Québec, on me dit que oui, il nie le fait qu'il y a des victimes, il est cruel, il est sans cœur, etc. Au moins j'ai une tête, déjà ça, et j'ai aussi un cœur, je pense. Et il faut mettre en garde cette tentation de la pureté victimaire, la tentation de certains clergés qui vont défendre leur clientèle, qui très souvent, au bout d'un certain temps, se reconnaissent plus dans le discours, mais n'ont pas voix au chapitre, n'ont pas de tribune.
Ça a été un peu ça pour le communisme, non?
Absolument. Le communisme naît dans un contexte qui l'explique. Il y a un prolétariat.
Ah oui.
Curieusement, c'est né en Russie et non pas en Allemagne ou en Angleterre. Bref, mais il y avait un début de prolétariat en Russie, etc. La Première Guerre mondiale a joué un rôle. Enfin bref, ça bouillonnait. Alors oui, il s'agissait de défendre les pauvres, de défendre le prolétariat, de défendre, etc. Mais peu à peu, le Parti communiste est devenu et monté en ballon, en apesanteur, et a sécrété son propre peuple, sa propre idée du peuple.
Qui s'est détaché finalement du peuple.
À mon avis,
quand
oui.
on regarde la manière dont vivaient les élites du Parti communiste.
Elles avaient leur datcha à Sochi, sur la mer Noire. Elles pouvaient. Il y avait deux réseaux de supermarchés quand il y avait le bouffe en Russie communiste. Les membres du parti avaient ce qu'on appelle les berioska, c'était le supermarché où on avait des produits d'importation pour pas trop cher. Mais la masse, elle, les pauvres gens, ils allaient au marché d'État.
Et quand il y avait du chou, on faisait la file.
On faisait la file. Alors quand il y avait du chou, tout le monde allait acheter du chou. Quand il y avait des patates, tout le monde achetait des patates. Et puis il y a des jours où il n'y avait plus rien.
Écoutez, Jean-Philippe Trottier, on fait une courte pause et on continue tout de suite après.
Allons-y.
Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui et je me trouve en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Jean-Philippe, auteur des Illusions dangereuses aux éditions Artege. Jean-Philippe est diplômé de la Sorbonne en philosophie. Et c'est un livre, justement, où vous traitez beaucoup de philosophie. Vous vous basez également sur Simone Veil.
Oui.
Et ça, vraiment, on trouve des choses fort intéressantes. On parlait de cette culture, de ces nouvelles religions, j'oserais dire, ou de ces nouvelles idéologies qui font de la victime...
un nouveau Christ.
Un nouveau Christ.
Voilà.
Comment on s'en sort?
En démontant la mécanique.
Voilà, mais on démonte la mécanique, ce que vous faites dans votre livre.
Oui, oui.
Mais quand même, on se rend compte que c'est pas facile de ne pas entrer dans cette mécanique, parce que il y a quand même des éléments au niveau, par exemple, de justice sociale, ou encore au niveau de la morale.
Il y a rien à redire à ça.
Bon, il y a quand même des éléments qu'il faut défendre.
Absolument.
Alors comment on fait sans tomber dans le panneau de devenir justement ces grands prêtres, ces grandes prêtresses que vous avez jusqu'à un certain point dénoncées et on a parlé du communisme entre autres, où justement on parlait du peuple et puis finalement le système, le régime lui-même s'est mis à se séparer de ce peuple qu'il voulait défendre et on se retrouve avec les élites qui sont sur le bord de la mer Noire dans leur datcha à faire la fête. Pendant que les gens font la queue pour de la nourriture qui est souvent périmée ou en très, très mauvais état.
Ah oui.
Comment on arrive? Parce que c'est vraiment là où ça se situe. Est-ce que, en fait, vous posez comme un philosophe chrétien parce que vous parlez du Christ?
Philosophe chrétien, non. Je parle du Christ parce que je suis chrétien et je crois dans la réalité christique qu'on peut appeler Jésus-Christ, qui est une personne, si vous voulez.
Et est-ce que c'est peut-être la voie du centre, finalement?
Non.
Non?
C'est la voie de la profondeur.
D'accord.
C'est autre chose. Il ne s'agit pas d'être entre la gauche et la droite et prendre comme un couteau à une pelle à tarte et couper vraiment au milieu. Il s'agit de chercher, en tout cas, la profondeur. Or, le Christ est dans la profondeur. Quand on l'idolâtre, c'est autre chose. Il devient très superficiel et bidimensionnel.
Notre petit Jésus dans la crèche ou la statue de Jésus, puis qu'il faut pas toucher.
Alors oui, il y a tout un folklore lié à ça qui est très joli.
Mais en fait, la piété populaire qu'il faut respecter.
Il faut tout le temps, quand on dit Ecclesias semper reformanda, l'Église doit toujours se réformer. Le chrétien doit toujours se réformer. N'importe qui doit toujours se réformer lundi matin, midi. Enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je veux dire, c'est que la tendance idolâtre, la tendance à posséder la vérité est consubstantielle à l'être humain. À mon avis, c'est dû au péché originel, et j'y crois dur comme fer.
Ah, ça, c'est intéressant, parce que sur le péché originel, on pourrait s'obstiner longtemps, mais...
On se prend pour Dieu. C'est ça, fondamentalement. On remplace Dieu. Et donc, nous, on reconnaît le Christ. Et on reconnaît le Christ au moment où il apparaît. Les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu une fois disparu.
Ah oui, d'accord.
C'est pas la même chose.
Pas du tout.
Sauf qu'il y a eu une théophanie, Pierre. Quand Jésus dit à ses disciples, pas pour vous, qui est-ce que je suis? Tu es le prophète Élie, tu es un tel, etc. Et Pierre dit, tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Mm-hmm. Et Jésus lui dit, c'est par l'Esprit que tu as compris ça. Heureux es-tu. Donc oui, il faut que l'Esprit Saint fasse son œuvre aussi. Mais quand on éjecte l'Esprit Saint, ben on va trouver Jésus partout. Et il l'est partout, en petite quantité, plus ou moins, etc.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Revenez là-dessus. Quand on éjecte l'Esprit Saint, on le retrouve partout.
C'est-à-dire que quand on l'éjecte, quand on l'éjecte de notre être, si vous voulez, on a toujours une nostalgie de ces réalités-là. On a toujours la nostalgie de Jésus-Christ, même si on s'est libéré, entre guillemets. Ayant ce souvenir d'eux, mais sans en avoir la prudence, on va dénicher des Jésus-Christ à droite et à gauche, notamment des Christ en croix, chez les victimes.
Et on va dénicher, en fait, des victimes. Ça là-dessus, j'avoue que je suis un peu confus, mais c'est pas grave, parce que vous démontrez très bien dans le livre, en fait, toute la logique qui se met en place quand on crée les idoles, et absolument, ça, c'est intéressant. À la page 72, attendez un peu, j'ai bien lu.
Dis donc, bravo.
Au quatrième paragraphe, on arrive à « Néanmoins, l'homme a toujours un vague souvenir de son origine et de sa création divine. L'image de Dieu est là, bien présente et bien tenace en lui. Mais sa ressemblance l'est beaucoup moins, pour reprendre les deux termes de la Genèse. Délaissant trop souvent la proie pour l'ombre, la créature nostalgique de Dieu le cherche, mais au mauvais endroit. En d'autres mots, elle se fabrique une idole et lui voue le culte normalement dû à Dieu seul. L'essentiel de la dégradation est là.
Oui.
Et c'est là que vous situez finalement dans nos sociétés cette idolâtrie de la victime.
Absolument. Il y a eu d'autres idolâtries avant. Je ne fustige pas l'époque moderne.
Et nous en aurons peut-être d'autres.
Ah bah, le progrès, ça c'est un truc. La croissance économique, c'en est une autre.
Ouais.
On est d'accord pour le progrès, on est d'accord pour la croissance, mais il faut pas, il faut pas pousser le bouchon trop loin. Une idéologie naît d'un constat réel. Une idolâtrie naît d'un constat réel. L'idole est en tout point semblable au modèle. Saint Jérôme de Stridon dit bien que le diable est le singe du bon Dieu.
Mmh.
Et le diable va vous proposer plein d'idoles qui ressemblent à Jésus-Christ, qui ressemblent à tout ce qui est divin. Et comment faire la part des choses entre ce qui est idole et ce qui ne l'est pas? À mon avis, il y a la désillusion.
Ouais.
On part... L'idole, c'est merveilleux parce que c'est une création divine, humaine, pardon, et elle vous satisfait pleinement. La lutte pour les victimes, c'est exaltant. Beaucoup de catholiques progressistes de gauche se grisent du combat pour la victime. Je peux très bien comprendre, et j'embarquerai là-dedans volontiers aussi. Sauf que la désillusion permet de voir que ces combats sont beaucoup plus ambigus que cela. Les victimes existent, je le dis pour la 10e fois, je le redirai pour la 20e fois parce qu'on ne semble pas trop le comprendre ici. Mais la victime existe, mais la griserie autour de la victime existe aussi et elle est narcissisante. Elle est satisfaisante pour l'ego.
Elle peut finalement finir par s'éloigner, comme on le dit pour les élites communistes. C'est le danger qui est là.
Absolument.
Même chose du côté de la droite.
La droite aussi. Ah oui, absolument. Il y a un fétichisme dans la droite aussi. Le ressac identitaire qu'on voit aujourd'hui est de la même eau, si vous voulez. Les racines, la mémoire, le discours historique, un peuple a le droit de, etc. Je suis d'accord. Sauf qu'un peuple n'est pas une création d'un intellectuel bien en vue, par exemple. Un peuple n'est pas un peuple, c'est une réalité organique des mémoires, des affects, qui varie plus ou moins. Mais aucun clergé n'a le droit de s'arroger la gestion du peuple. Il n'y a qu'un seul clergé qui puisse s'arroger ce droit-là, c'est le clergé catholique. L'Église a le dépôt de la foi, les prêtres sont ordonnés, il y a une transmission apostolique, ce qui fait que les prêtres ont cette autorité-là, selon l'Église. Mais on n'a pas le droit, au Québec, on ne peut pas, si on est nationaliste, je veux bien. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus beau comme objet d'étude une nation qu'une fédération. Oui. Au moins, il y a un affect qui est mobilisé,
qui est
etc.
Très mobilisé,
mais on ne peut pas s'arroger l'alpha et l'oméga de l'âme d'un peuple. Au Québec, très souvent, les nationalistes sont collés à l'âme du peuple et c'est eux qui ont la seule autorisation de parler au nom du peuple. C'est ridicule. Et ça exclut beaucoup de monde.
Jean-Philippe Trottier, vous parlez dans le livre, et il nous reste à peine 10 minutes,
oui.
Le rapport au tragique, et je trouve ça intéressant et peut-être même fondamental d'en parler, étant donné que c'est peut-être là où on a un point d'ancrage. D'abord, le Christ, sa fin est tragique, c'est une figure du tragique. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord par le mot tragique, quand vous l'utilisez?
Tragique, je pense tout le temps à la tragédie grecque. Ça vient d'un mot grec qui voulait dire bouc émissaire, etc. Et on offrait un bouc au dieu. Bon. Le tragique, c'est le destin qui s'oppose à la volonté humaine. L'homme se rend compte qu'il est un fétu de paille, il a voulu faire ci, il a voulu contrôler ça, etc. Et finalement, le tremblement de terre, les tsunamis, les pestes, les épidémies viennent et mettent tout ça à zéro. Le tragique, c'est aussi la fonction paternelle de dire non à l'enfant. C'est comme s'il le tuait. En un sens, il tue cet enfant à tel stade, c'est-à-dire qu'il le sépare de la mère, si vous voulez, et l'enfant, face à cet interdit fondamental, négocie une résurrection, si vous voulez, et j'emploie ce terme à dessein, à un autre niveau. Peu à peu, le père, séparant l'enfant de la mère, l'individualise et lui donne sa propre voix. D'accord ? Jésus-Christ, c'est l'être tragique par excellence, il a foiré. Okay? Il est mort en croix, il n'a pas fait tous les miracles il en a fait de son vivant, mais il n'a pas... On disait, si tu es fils de Dieu, demande à Dieu de te détacher de la croix. Non. Et donc, il a raté, il est mort. Mais c'était la condition pour une résurrection. Il fallait qu'il meure. Il faut que le grain tombe en terre pour mourir, pour ressusciter dans une autre dimension. On voit ça dans le jardin, dans Saint Jean. Marie-Madeleine voit le tombeau vide, elle voit un jardinier derrière, elle est sanglotante, imaginez un peu, et elle voit le jardinier, que cherches-tu, le corps de mon maître, etc. Et il l'appelle par son prénom, elle se reconnaît que c'est Jésus-Christ, elle se précipite vers celui qu'elle a connu, et il la repousse, il dit « ne me touche pas, parce que je suis un autre maintenant, il faut que ton affection envers moi se transmute en une foi épurée ». C'est ça le processus tragique, le processus de deuil, il faut que ce soit inéluctable.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et là je vais peut-être, le mot, on va essayer de le définir également, cet amour que Jésus a eu sur la croix, parce que c'est un don qu'il a fait de sa vie, et c'est un don qu'il a fait librement, on le voit, nul, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne.
C'est juste.
En ce sens-là, est-ce que c'est pas aussi une des parties tragiques de nos vies, où parfois on se dit, aimer c'est trop difficile, alors je vais me créer des idoles, dans le fond.
C'est beaucoup plus facile, effectivement, oui, parce qu'une idole, je peux la contrôler au moins. Je peux me battre pour cette idole-là, comprenez-vous, mais me battre pour Jésus-Christ, oui, je veux bien, sauf que si je me bats pour Dieu ou pour Jésus, je suis idolâtre. Si je me bats par Dieu et par Jésus-Christ, c'est une autre histoire. Le pour et le par, ce sont deux prépositions complètement opposées. Quand vous avez « je me bats pour Dieu », c'est un programme politique, c'est une idéologie. Si je me bats par Dieu, c'est que je me bats par une force qui me dépasse et à laquelle je ne comprends pas grand-chose, mais qui me traverse. Nicodème, nul ne sait d'où l'esprit vient, d'où il vient et où il va. On est toujours dans cette économie-là. Les idolâtries victimaires, on est pour. On n'est pas part, très souvent.
Et les idéologies, en fait, qu'elles soient victimaires ou autres...
C'est le même fonctionnement.
C'est le même fonctionnement.
Absolument. On est en pleine... L'idéologie et l'idolâtrie, je dirais, c'est une seule et même chose. Sauf que l'idéologie est un mot du XVIIIe siècle qui a été inventé à la fin, autour de la Révolution par un type comme Destutt de Tracy. C'est lui qui a inventé ça.
Dites-moi, Jean-Philippe, et en peine une minute et demie,
oui,
parce que c'est déjà terminé.
Ouf!
Ça va très vite. Comment on peut s'en sortir, finalement? Parce que je me rends compte, en vous lisant, je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais comment je m'en sors, moi? Parce que, dans le fond, on tombe toujours un peu...
Absolument.
Dans cette mécanique où on crée notre idole, où on fait notre idole, où c'est là que c'est le plus difficile, peut-être, non?
L'abbé Pierre parlait de désillusion enthousiaste, c'est-à-dire qu'il parle encore une fois des disciples d'Emmaüs, ils ont tout perdu, ils ont foiré, etc. Alors,
ouais.
Jésus est mort, etc. Puis ils sont tout tristounets. Cléophas, ouais, et son copain, et puis bon, ils trouvent un étranger sur la route qui leur explique un peu les Écritures et tout ça. Et puis à un moment donné, dans une auberge, et ils disent, il prend le pain, il le bénit, il le rompt, il le donne. Bon, il faut passer par la perte tragique pour retrouver un autre niveau. Il faut passer de l'espoir à l'espérance. Il faut passer de la vertu cardinale.
Désespoir à l'espérance.
Oui, de la vertu cardinale à la vertu théologale. C'est la seule façon. Se purifier n'est jamais facile, n'est jamais agréable. C'est douloureux, mais il faut accepter ça.
Et dans le christianisme, est-ce qu'on ne se laisse pas se laisser purifier par Dieu encore davantage?
Absolument.
Au niveau mystique.
Tout à fait. On ne peut pas décider soi-même du tragique. Je ne peux pas vouloir aller sur une croix. Ceux qui cherchent la souffrance, je m'en méfie.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Jésus, c'était sa croix, mais peut-être que les autres ont une autre croix. Écoutez, Jean-Philippe Trottier, ça a été un grand plaisir de vous accueillir.
Pareillement, merci Mario.
Merci beaucoup. Et « Les illusions dangereuses », vraiment un livre à lire pour trouver et comprendre, et mieux comprendre, avec des idées philosophiques, avec des idées chrétiennes également.
Préfacé par Rémi Brague, si
exactement, oui. Les mécanismes donc qui peuvent nous mener vers justement les illusions dangereuses, vers cette tendance que nous avons tous à idolâtrer, devenir idole même, aimer les idoles. Ah là là.
Ça fait du bien ça.
Ouais. Bon, ça dure un temps. Hein? Jean-Philippe Trottier, merci beaucoup.
Merci Mario Barre.
Je rappelle qu'il est diplômé de la Sorbonne en philosophie, ainsi que de l'Université McGill, du Conservatoire de Montréal en musique. Et il est chef d'antenne et animateur à Radio-VM. Je vous rappelle que Question d'aujourd'hui vous est proposée par l'Office de catéchèse du Québec, qui reçoit le gracieux soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation d'émission. Merci beaucoup à Valérian Fournier pour la technique, Yannick Caron également à Radio-Galilée. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.